aujourd'hui, c'est qu'on arrive à une sorte de fin de tunnel où il y a de moins en moins de médicaments intéressants qui sortent sur le marché, et en même temps, on veut les administrer à de plus en plus de gens. C'est-à-dire, le génie de l'industrie pharmaceutique a été de faire tomber les limites naturelles du marché, qui sont tout simplement la maladie. Normalement, autrefois, on ne prenait pas de médicaments si on n'était pas malade, vous ne prenez pas un antibiotique si vous n'êtes pas infecté, vous ne prenez pas un antimigraineux si vous n'avez pas la migraine, et vous ne prenez pas un anticancéreux si vous n'avez pas de cancer. Et ce qui s'est passé, disons, depuis environ 20 à 30 ans, qui a coïncidé à peu près avec le moment où moi je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique, c'est que sous prétexte de prévention, on a fait tomber les limites naturelles du marché et que, et supposé s'exposer à des produits qui ont quand même une certaine toxicité, à peu près n'importe qui, des gens en parfaite santé. Les vaccins sont un excellent exemple, mais il y en a bien d'autres. Les traitements de la ménopause, c'était quand même un coup de génie d'avoir inventé qu'à partir de l'âge de 50 ans, il y avait la moitié de la population humaine qui était justiciable d'un traitement à vie.
Auparavant, on attendait d'être malade pour prendre des médicaments. Comme les labos pharmaceutiques n'arrivent plus à produire des médicaments qui soignent les maladies, ils vont proposer des médicaments qui soignent sans doute les maladies qu'on pourrait avoir.
Voilà.
À ce moment-là, vous devenez expert judiciaire, vous devenez expert pour la justice,
oui.
Et vous êtes invité par les magistrats dans un certain nombre de procès.
Je me doutais bien qu'en me mêlant de ça, j'allais quand même un peu me mettre à dos mes clients privilégiés à l'époque quand même. Par exemple, dans toutes les affaires judiciaires où je suis désigné, le fabricant impliqué, c'est un de mes clients. Situation un peu inédite. Donc, je vais faire des déclarations d'intérêt. C'est-à-dire, avant de commencer l'expertise, je vais dire à tous les avocats, aux victimes, etc., je vous signale que je travaille avec votre adversaire. Alors là, bizarrement, les victimes disent « Ah bah, dites donc, vous êtes le premier à dire un truc comme ça, finalement, vous ne devez pas être plus malhonnête que les autres, on vous garde. » Finalement, je vais faire des rapports relativement accablants pour un certain nombre de fabricants, et il va se passer quelque chose de tout à fait inédit sur un plan judiciaire, c'est que les fabricants vont se lancer dans une multiplication de récusations.
Les labos pharmaceutiques, ils disent, le docteur Girard, il est payé par nous comme consultant, donc il n'est pas fiable et dans son rapport.
Voilà, une sorte d'acharnement tout à fait organisé sur le seul expert judiciaire qui puisse se prévaloir d'une compétence en pharmaco-épidémiologie.
Et vous êtes remplacé par qui dans tous ces dossiers ?
Aujourd'hui, dans le monde du médicament, par exemple, les 99% des rapports sont écrits en anglais. Je peux vous dire que dans les affaires hépatite B, il y a eu des dizaines d'experts qui ont été désignés, que je connais très bien, qui ne lisent pas une ligne d'anglais. Donc qui, finalement, s'en sont réduits pour les affaires judiciaires à s'en tenir aux quelques articles qui ont été traduits par qui quand vous connaissez les tarifs de traduction, je peux vous dire, c'est quand même plus les fabricants qui font traduire les articles que les victimes ruinées par la maladie. Bon, voilà.
Donc les experts qui vous ont remplacé, ils ont rendu des rapports plus favorables à l'industrie pharmaceutique.
Si vous voulez, pourquoi croyez-vous que jusqu'à présent, sur les dizaines d'affaires qu'il y a eu, les centaines d'affaires qu'il y a eu au civil, il y a eu, à ma connaissance, une seule condamnation d'un fabricant qui a été confirmée par la Cour de cassation. Pourquoi le croyez-vous ? Je cite toujours ce cas, ce patron de la salpêtrière qui m'a dit les yeux dans les yeux, ce vaccin est une saloperie et j'ai interdit à tous les miens de s'y exposer. Bon, il ne l'a jamais dit publiquement.
Tous les miens, c'est-à-dire
tous mes enfants, ma femme, etc. Et de même que le service de la pitié qui a pourtant donné l'alerte, parce que c'est à un moment, ils ont vu arriver un nombre incalculable de sclérosés en plaques chez des jeunes, en plus des adolescents. C'est donc ils se sont posés des questions et très, très rapidement, ils ont dit, voilà, c'est le vaccin, quoi. Et c'est eux qui ont lancé l'alerte. J'attends encore que l'autorité sanitaire veuille bien expliquer aux Français que avant la campagne de vaccination, on avait moins de 25 000 scléroses en plaques dans ce pays. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y en a 80 à 90 000. Cherchez l'erreur. Donnez-moi une raison.
La justice en Corée, la santé. Fallait-il lancer une campagne de vaccination contre l'hépatite B ?
France 2, 27 septembre 2004.
Depuis plusieurs années, on s'interroge sur les conséquences de cette campagne sur l'apparition de sclérose en plaques, un débat qui n'est pas tant tranché par les scientifiques, mais la question est relancée par une plainte de 5 familles de victimes contre 3 ministres ou ex-ministres de la Santé.
Dans le petit cimetière de Roy-sur-Mat dans l'Oise, les parents de Nathalie ont fait graver une plaque accusatrice. Pour eux, leur fille est morte à 28 ans, victime du vaccin contre l'hépatite B.
Elle a fait le vaccin et ça lui a